Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
C'est une nouvelle semaine de confidences qui s'ouvre en ce lundi. Je suis très heureuse de vous retrouver sur France Bleu pour On se dit tout. Un sujet aujourd'hui qui concerne bien plus de monde qu'on ne l'imagine, l'infertilité. Avoir un bébé, c'est a priori la chose la plus naturelle au monde. Mais pas pour tout le monde, et pour certains c'est même carrément le parcours du combattant. On attend, on consulte, on se retrouve avec des traitements hormonaux, on attend encore, la vie est rythmée par les examens, les périodes d'ovulation, et quand ça ne marche pas, ça continue. PMA, FIV, don d'ovocytes, on va parler de tout ça avec vous qui avez connu ce long parcours pour avoir un bébé ou qui êtes en plein dedans. 0810 055 056 pour apporter votre témoignage. On se dit tout aujourd'hui en compagnie de Déborah Schumann Antonio, auteur du livre je l'ai sous les yeux, Infertilité, mon guide vers l'espoir aux éditions Jouvence. Bonjour à vous, bienvenue Déborah.
Bonjour.
Vous n'êtes pas une énième médecin à faire un livre médical sur la procréation médicalement assistée. Vous, c'est aussi votre histoire et forcément c'est différent pour les femmes et les hommes qui viennent vous voir.
Oui, aujourd'hui c'est vrai que j'ai changé de vie pour accompagner les autres. Donc je suis thérapeute et coach en périnatalité. Mais avant ça, c'est vrai que ce qui m'a fait changer de vie, c'est d'avoir ce parcours d'infertilité. Donc 4 ans où j'ai essayé de faire un enfant et qui m'a plongée dans un monde que je ne connaissais absolument pas, un monde que j'ai trouvé à la fois fantastique parce qu'il y a des très beaux moments et des moments terriblement douloureux et compliqués.
On reviendra sur votre histoire. Pour résumer, à un moment donné, vous dites « Ok, bon, ben, on arrête, je me concentre sur moi, mon couple, on va sortir, on va vivre en amoureux. » Et puis d'un seul coup, le bébé arrive.
Oui.
Voilà.
Oui. Même deux bébés sont arrivés derrière.
Deux filles. Vous reconnaissez peut-être dans ce témoignage, alors vous aimeriez bien que ça vous arrive vous aussi, vous êtes en plein dedans. Venez nous rejoindre et venez en parler, c'est le sujet dont on se dit tout aujourd'hui.
Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
Un jour, on arrête la pilule, on est prêt enfin pour avoir un bébé, sauf que ce bébé ne vient pas tout de suite en tout cas. Il commence alors l'attente, l'angoisse, les premiers examens et le verdict qui tombe comme un couperet. On se dit tout s'intéresse aujourd'hui à vous qui êtes passé par là ou qui êtes toujours dedans. Comment vous avez réagi? Est-ce que vous trouvez que vous avez été bien écouté par le monde médical? Est-ce que vous en avez parlé à votre famille? Est-ce que c'est difficile d'ailleurs, tiens, d'en parler à l'entourage? Et puis, est-ce que c'est compliqué aussi de retrouver son corps de femme dans tous ses traitements, sa vie de couple également, de se détacher de tout ça? Venez en parler avec nous sur France Bleu au 0810 055 056. Déborah Schumann Antonio signe Infertilité, mon guide vers l'espoir aux éditions Jouvence. Elle est notre grand témoin. C'est vrai que c'est pas toujours facile d'en parler. Alors, les femmes aujourd'hui, je pense que les hommes aussi se tournent vers vous. Mais en parler dans son entourage, entendre des réflexions aussi, passer un certain âge, bah alors, pourquoi t'as pas de bébé? Ça, c'est la première petite piqûre qui fait mal.
C'est une des premières piqûres qui fait mal, c'est la pression extérieure qui est terrible. Et puis cette question qui au demeurant est une question, j'allais dire, sans animosité, hein, quand la famille la pose, c'est plutôt parce qu'ils ont envie d'avoir des petits-enfants, des petits-cousins. Donc elle part d'un bon sentiment. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ce bon sentiment n'est pas reçu comme ça par des personnes qui sont en difficulté et qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. C'est reçu un peu comme une injonction. Alors c'est pour quand? Vous ne savez pas faire, vous n'y arrivez pas, et ça rajoute à l'anxiété qu'on peut avoir d'être déjà dans la difficulté à avoir un enfant. Donc c'est à un moment donné, cette petite phrase, elle est assassine. Elle est même tellement redoutée des couples que certains me disent, on évite d'aller voir du monde pour qu'on nous pose cette question. On contourne. Alors, secret, plusieurs choses. Soit on arrive à en discuter avec son entourage, ses amis, sa famille. On peut arriver à en discuter librement, ça arrive. Parfois, c'est plus compliqué compte tenu de l'entourage ou des amis qu'on peut avoir. Bon. Et dans ces cas-là, on va inventer un mensonge. On va inventer un mensonge pour contourner cette question.
C'est pas le moment.
Voilà. Ouais. Toutes ces phrases un peu annexes, voilà. Oh, c'est pas pour le moment, on a d'autres projets, etc., qui évitent la question. Mais plus le temps avance, et j'allais dire, plus la question devient de plus en plus importante.
À quel moment il faut se poser la question que peut-être il y a quelque chose qui va pas forcément et qu'il faut consulter? Parce que c'est très inégal d'une femme à l'autre.
C'est très inégal d'une femme à une autre, et c'est que les recommandations que peuvent donner aujourd'hui les médecins, c'est un an d'essai. Alors, quand on a
naturel,
moins de 35 ans, un an d'essai naturel. Et si au bout d'un an, il ne se passe rien, il faut consulter. En revanche, si on a plus de 35 ans, ou si on a déjà eu des pathologies antérieures, c'est-à-dire des fibromes, de l'endométriose, des règles un peu anarchiques ou des cycles un peu anarchiques, là, il est quand même conseillé vraiment de consulter au bout de 6 mois.
C'est facile de pousser la porte aussi, parce qu'il y a peut-être ce blocage de se dire, si je commence ouvrir cette porte-là. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir derrière, combien de temps ça va durer, est-ce que ça fait mal, est-ce que les traitements, ça va être facile. Enfin, il y a aussi peut-être des femmes qui se disent « je repousse au maximum parce que je n'ai pas envie de rentrer dans ce magma ».
Oui, parce qu'en plus, consulter, c'est aussi peut-être avoir une réponse. Une réponse qui va, d'une manière ou d'une autre, nous faire entrer dans autre chose. Vous avez raison. Donc ça n'est pas forcément évident. C'est se dire peut-être qu'on va m'expliquer que je ne peux pas avoir d'enfant ou que ça va être plus compliqué que pour une autre et que je n'ai pas forcément envie d'être confrontée à ça.
Et c'est pas non plus facile d'en parler, on le voit bien, je vous sens encore un petit peu réticent au standard de France Bleu. Si vous connaissez On se dit tout, vous savez qu'ici on ne juge pas, c'est vraiment l'idée, c'est d'en parler, de partager ces moments que vous vivez ou que vous avez vécu. Voilà, c'est pas toujours très très simple, je sais bien, il y a des sujets plus faciles que d'autres sur lesquels
s'exprimer.
Que,
vraiment, je voudrais dire que ma démarche et le travail que je fais, ou le livre que j'ai écrit, c'est vraiment pour déculpabiliser tous les couples qui sont dans ces parcours et qui parfois le vivent avec une grande difficulté. Donc, il faut quand même vraiment avoir conscience de la difficulté de ces parcours-là.
Et vous parlez des couples, c'est bien aussi qu'on ait des hommes qui nous appellent,
mais
parce que
sûr.
Souvent on a l'impression que c'est
faut
une histoire
pas les
de
oublier.
Femmes. Il faut pas les
ça
oublier.
Ça n'est pas moins difficile pour les hommes.
0810 055 056 pour nous rejoindre sur France Bleu.
Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
Dame Nature n'est pas toujours sympa quand il s'agit d'avoir un bébé et on connaît tous dans notre entourage un couple qui galère. C'est peut-être votre histoire, vous qui connaissez trop bien les mots infertilité, spermogramme, FIV et surtout ce long processus ponctué d'attente, d'espoir, parfois aussi de déception. On se dit tout, vous donne la parole si vous êtes en plein processus, si vous avez réussi à avoir un bébé après des années d'examen, si vous avez dû faire appel à un don d'ovocyte à l'étranger ou en France, mais on sait que c'est plus compliqué, si vous avez tout à arrêter et que vous êtes ensuite tombée enceinte naturellement, ça arrive aussi. Bébé parcours du combattant, c'est le sujet dont se dit tout au 0810 055 056 et notre grand témoin a vécu la même chose que vous, Déborah Schumann Antonio, signe Infertilité, mon guide vers l'espoir aux éditions Jouvence. Un livre pour aider et puis des consultations puisqu'aujourd'hui vous êtes coach, également vous aidez les couples qui sont dans ce long parcours. On va accueillir tout de suite Sylvie dans le sud-ouest. Bonjour Sylvie.
Oui, bonjour.
Vous, ça fait 5 ans que vous essayez d'avoir un enfant.
Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est un parcours du combattant. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Et c'est vrai qu'il y a deux sortes de gens, ceux qui ont envie d'en parler et ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas.
Comment vous en parlez, vous, Sylvie ?
Mais moi, je travaille dans le domaine médical. Donc, effectivement... Je suis tous les jours confrontée à ces expériences-là, si entre guillemets, on peut appeler ça expérience, et qu'il faut s'accrocher, il faut vraiment s'accrocher et aller jusqu'au bout du bout pour n'avoir plus que des déceptions et pas de regrets de ne pas avoir essayé de le faire.
Est-ce que le fait d'être dans le milieu médical, c'est pas encore plus compliqué de se dire finalement, vous connaissez tous ces mots-là, vous connaissez les traitements, est-ce qu'on arrive à penser autre chose que le médical parce que quand on pense bébé, on pense aussi famille, préparatif, mais là j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de tout ce qui est médical quand on est dans cette démarche-là.
Alors c'est vrai que c'est pas évident, parce que quand on est dans ce processus-là, effectivement, de côtoyer les gens qui sont dans la même galère que vous, ça forcément ça fait penser déjà que ce genre de situation c'est à chaque heure, à chaque instant de votre journée, nuit et jour, que l'on pense, que l'on réfléchit, que l'on médite. Et c'est vrai que c'est pas tous les jours évident, c'est vrai.
Comment vous faites justement, Déborah, pour aider les couples à penser à autre chose que cet aspect médical, finalement ?
Alors, c'est vrai, dans ce que vous dites, Sylvie, ce qui est compliqué, c'est qu'on y pense tout le temps. Alors, il y a un des conseils qu'on entend de manière régulière, c'est « faut que tu arrêtes d'y penser ». Alors ça,
dire.
C'est très compliqué, hein, surtout quand on est en traitement, puisque, comme vient de le dire Sylvie, c'est quand même un engagement quotidien. On demande quand même plein de choses aux patients qui sont en traitement. Donc, très compliqué de ne pas y penser, pour pas dire impossible de ne pas y penser. En revanche, c'est vrai que c'est ce que je conseille souvent, c'est en dehors des périodes de traitement, où là, on n'a pas de piqûre, pas d'échographie, vie, pas de prise de sang, eh bien c'est là où il faut se concentrer sur le reste de sa vie et essayer de réactiver le reste de sa vie et essayer de faire d'autres projets. Donc c'est évidemment très compliqué, ça ne se fait pas en une journée, je ne vais pas vous dire que c'est simple, mais c'est important, j'allais dire, d'avoir des choses positives qui arrivent dans le reste de notre vie. Je vais avoir des choses positives dans ma vie professionnelle, peut-être remporter des challenges que j'imaginais pas, je ne sais pas, passer mon permis de conduire si je ne l'ai pas fait, aller apprendre une langue que j'aurais pas osé faire, c'est-à-dire me prouver à moi-même que ce n'est pas parce que je n'arrive pas à faire un bébé que je suis, comme j'entends très souvent, nul ou incapable. Non, pas du tout. Je suis une femme à part entière ou je suis un homme à part entière et je peux faire plein d'autres choses.
Vous parlez des hommes, Sylvie, je disais tout à l'heure aussi, les hommes sont les bienvenus dans cette émission. Est-ce qu'avec votre conjoint, c'est facile d'en parler? Est-ce que lui, il en parle aussi?
Non, non. C'est pour lui, c'est pas évident. C'est vrai que moi, je peux plus facilement me livrer, en discuter ouvertement. Et au contraire, ô combien je voudrais que les gens arrivent à témoigner, à en parler. Parce que justement, moi je pense que c'est très bien justement de pouvoir en parler. C'est s'extérioriser, c'est partager, c'est tout simplement vivre la même chose ensemble.
Et c'est ce qu'on essaye de faire dans cette émission aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous, Sylvie. On vous embrasse tous les deux.
Je vous en prie.
Et plein de courage à vous.
Merci
Sylvie, au revoir.
Des moments de vie uniques, des histoires universelles, on se dit tout sur France Bleu.
Procédure médicale longue et lourde, attente, montagne russe dans les émotions, on se dit tout, s'intéresse aujourd'hui à l'infertilité, à tous ces couples qui se battent ou se sont battus pour avoir un bébé, avec des petites lettres que vous connaissez bien, PMA, FIV, que vous connaissez trop bien peut-être aujourd'hui. Et puis un jour on abandonne, on baisse les bras, on oublie tout ça, on reprend une vie normale. Et puis pour certains, c'est justement au moment où on ne s'y attend plus du tout que le bébé pointe le bout de son nez. Alors ça marche pas à tous les coups, on va pas donner de faux espoirs, mais... on a déjà fait des émissions sur ce thème et on a déjà entendu des témoignages dans ce sens. 0810 055 056, venez nous raconter votre parcours, vos doutes, vos états d'âme et on l'espère aussi vos grands bonheurs avec notre grand témoin Rebecca Schumann-Antonio, auteur de Infertilité, mon guide vers l'espoir aux éditions Jouvence. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Vous êtes en Meurthe-et-Moselle.
Tout à fait.
Vous avez connu ça, ce long parcours.
Oui, malheureusement... On est passé par là il y a quelques années maintenant. Et l'année dernière, il y a 2 ans, pour nos dernières jumelles.
Vous avez 3 enfants aujourd'hui.
Exactement.
3 enfants. C'est bien aussi d'entendre votre témoignage. Avec du recul, Valérie, est-ce que vous y repensez à tout ce parcours? Qu'est-ce que vous retenez de ces années d'examen, de traitement, d'attente aussi?
Qu'est-ce qu'on retient? C'est les traitements qui sont, il faut être honnête, lourds. Aussi bien psychologiquement que physiquement, parce qu'on prend du poids, faut pas se cacher pour certains, même pour la plupart même. Et après, ce qu'on retient, c'est ce qu'il y a au bout, le bonheur de devenir mère. C'est ça qu'on retient le plus.
Ça marche. Ça a été quoi pour vous? Qu'est-ce qui a marché cette fois-ci pour vous?
Alors pour moi, en premier, ça a été des inséminations avec cross-sperme du conjoint, donc pour les 2 grossesses. Sauf qu'à la dernière, la première, c'était en 2012. Mmh. On a commencé en décembre 2012. La première n'a pas fonctionné, ce qui arrive très souvent. Hein. Ensuite, on a fait la deuxième et qui a directement marché. Donc, nous avons eu notre grand garçon qui va avoir 5 ans là, au mois d'octobre. Et nous avons remis ça il y a 2 ans maintenant. Et ça a été jusqu'à 5 inséminations, sachant que la dernière devait pas être une FIV. Mais j'ai pas réagi au traitement aussi bien que j'ai réagi pour les traitements d'assémination, en fait.
On sent qu'il y a encore beaucoup d'émotions quand vous en parlez, Valérie.
Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est normal, c'est pas évident non plus. Hein. Quand on passe par là, au départ, on se dit, voilà, on va essayer, on va voir qu'est-ce qui va pas. Heureusement pour nous, il y a eu, une infertilité inexpliquée des 2 côtés. Enfin, moi, c'était plus dû, on va dire, j'ai eu le papillomavirus, donc j'ai pas eu le cancer, mais j'ai eu le virus. Mmh. Ce qui fait que, j'ai eu un manque de clair, qui empêchait donc les spermatozoïdes de monter. Donc ça n'arrangeait pas les choses. Mais autrement, c'était plus inexpliqué qu'autre chose. Et grâce à la PMA, on a trois merveilles à la maison.
et on voit que finalement, ce qui marche pour l'une, ça va pas forcément être la même chose pour l'autre. Chaque femme est différente et chaque parcours de femme est différente de celle que vous voyez en consultation, par exemple.
Oui, on a des parcours tout à fait différents. Ce que nous raconte Valérie est évidemment plein d'émotions et merci de le partager. Et puis de partager le côté positif qui est aussi le résultat, parce que je crois qu'on oublie dans tout ce parcours si douloureux et plein de traitements et plein de, vraiment avec cet ascenseur émotionnel, on oublie quand même la finalité qui est un bébé. Mmh. C'est un mot qui est quand même très très peu employé dans le monde de la PMA, parce qu'on a peur de heurter les patients, mais c'est pour ça que les patients se battent, c'est pour avoir un enfant, et on entend encore l'émotion hein, qu'a Valérie, et je trouve ça très beau. Donc ça c'est essentiel de pas l'oublier dans les parcours.
Si vous deviez donner un conseil, Valérie, à des femmes et des hommes qui nous écoutent là aujourd'hui, vous leur diriez quoi ?
De continuer, de pas lâcher, c'est ce que je dis, donne à ceux que je connais, parce que voilà, j'en connais quelques-unes quand même qui passent par là, des amis proches comme des filles rencontrées sur Facebook. J'ai même créé un groupe pour ça, pour aider ces personnes-là. C'est de voilà, de pas perdre espoir, de tout donner, et que voilà, il faut se battre.
Merci beaucoup, c'est, Valérie.
C'est le combat.
Merci d'avoir
Valérie.
Été avec
Madame
nous. À bientôt, au revoir.
À bientôt, au revoir.
Sur France Bleu, on se dit tout. Avec Vanessa Lambert.
Vous êtes lancée dans un long processus pour avoir enfin un bébé, les rendez-vous chez le gynéco, les piqûres, la première FIV, le verdict. Comment faire pour ne pas en vouloir aussi à celui qui dans le couple est le fautif, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot. Comment le couple peut surmonter une épreuve comme celle-ci? Et quand on se tourne vers l'étranger, comment ça se prépare financièrement, mais aussi avec l'employeur? On parle de tout ça aujourd'hui dans On se dit tout. 0810 055 056 pour aborder toutes les facettes de ce long parcours du combattant, le verdict, les examens, le temps qui passe, la relation de couple, l'échec ou le miracle, alors qu'on ne s'y attend plus. Notre grand témoin, c'est Déborah Schumann-Antonio, auteur de Infertilité, mon guide vers l'espoir aux éditions Jouvence. Et nous sommes avec Emma en région parisienne. Bonjour Emma.
Bonjour.
On peut pas mieux tomber dans votre quotidien avec une émission comme celle-ci, parce que vous allez là en ce moment même à votre deuxième rendez-vous de PMA.
Exactement, c'est ça. Quand j'ai entendu, j'ai allumé ma radio, je vous ai entendu, j'ai fait bon, bah j'appelle, hein, c'est pour moi ce rendez-vous.
Et comment ça se passe ces rendez-vous, ce deuxième rendez-vous, vous l'attendez comment là ?
Alors ce deuxième rendez-vous, j'attends beaucoup parce que le premier, on m'a gentiment renvoyé chez moi en me disant que ça faisait que un an que j'essayais de faire un bébé avec mon mari et que c'était rien. Que j'ai pas encore 30 ans, que j'en ai que 27 et que donc voilà, j'ai qu'à attendre.
Je vous vois énervée, Déborah.
Oui, ça m'agace un peu parce que je conçois bien que on se dit 27 ans, elle a le temps de faire un enfant. Bon, ça c'est le temps médical. Après, il y a votre envie à vous, Emma. Et quand on a envie de faire un bébé, j'allais dire quand l'envie nous vient dans un couple,
c'est maintenant,
c'est pas dans 10 ans. Donc c'est sûr que j'allais dire l'avantage, c'est quand on est plus jeune, eh bien, on a un peu plus de temps pour faire les traitements. Voilà, on est moins dans une pression, on a le temps. Mais l'envie n'est pas moins forte et c'est ça qu'il faut entendre et c'est ça qu'il faut aussi que le corps médical entende.
Ce qui fait qu'après votre premier rendez-vous, vous êtes rentrée chez vous, il ne s'est rien passé, on n'a rien enclenché en fait.
Non, on n'a rien enclenché. Moi, de moi-même, j'avais déjà fait quelques examens que j'avais demandé à mon gynécologue de me prescrire. Donc tous les premiers examens sont venus bons, c'est-à-dire le spermogramme de mon mari. J'ai fait une hystérosalpingographie, c'est très douloureux mais il n'y avait rien de particulier. Et donc voilà, comme elle a vu ces résultats-là, elle nous a juste dit, à mon mari et moi, c'est parce qu'on n'avait pas assez de rapports sexuels.
Sympa.
Donc voilà, c'était de notre faute si on n'avait pas de bébé.
C'est la même personne que vous allez rencontrer là, au deuxième rendez-vous ?
Non, c'est dans le même hôpital, mais c'est quelqu'un d'autre, voilà.
Vous luttez aussi contre ça, parfois, ce vocabulaire des médecins qui peut être très violent face à des couples qui n'attendent que ça, un bébé ?
Oui, alors il est vrai qu'il y a quand même une amélioration, j'allais dire, de l'écoute des gynécologues spécialistes d'infertilité. Je crois qu'il y a une vraie prise de conscience sur le fait que, oui, ils ont la technique et ils la maîtrisent merveilleusement bien, mais il y a aussi la relation humaine, il y a aussi l'échange, il y a aussi l'écoute. et que certains mots qui paraissent anodins du point de vue médical sont extrêmement mal reçus du point de vue des patients. Donc moi, dans mon travail, je travaille énormément avec des gynécologues et c'est vrai qu'on... Parfois, je fais un peu le médiateur, c'est-à-dire que parfois, je dis il y a de l'incompréhension, il y a un manque de communication, et ça permet de réajuster les choses. C'est important de rétablir une vraie communication. Parce
et là, vous
n'y a pas que la technique.
Oui, vous y allez seule ou vous y allez avec votre mari, Emma ?
Non, mon mari, il me rejoint là-bas. Enfin, il est déjà, il m'attend.
Ah oui, il vous attend. Vous êtes à la bourre en fait.
Ouais.
C'est ça. Là aussi, c'est important d'y aller à deux, y aller ensemble, se soutenir, en discuter. Quand il y en a un qui n'arrive pas forcément à dire les choses, l'autre peut prendre
le relais. Oui, moi je trouve ça essentiel. Je trouve qu'on le voit de plus en plus. On voit de plus en plus d'hommes qui sont impliqués. C'est un projet à deux, on le disait tout à l'heure. Donc les deux sont importants, quelles que soient les pathologies de l'un ou de l'autre. Je crois qu'il faut se soutenir. Et puis il y a vraiment une particularité, c'est que les hommes et les femmes, on n'entend pas forcément les mêmes choses. Parfois les femmes sont dans l'émotionnel et donc ont l'impression que tout est une catastrophe. Les hommes sont assez pragmatiques, ils entendent plutôt des chiffres, des statistiques. Donc ça permet d'avoir une double écoute et parfois de temporiser ce qui a pu être dit. Donc je trouve ça plutôt très bien et puis ça aide l'un et l'autre à se soutenir. C'est essentiel d'être à deux.
Bon, Emma, on vous laisse aller au rendez-vous. Merci surtout d'avoir été avec nous. Et puis, plein de belles choses à vous.
De rien, merci. J'espère que ça va aller.
Oui, que le rendez-vous, le deuxième, sera mieux que le premier, quand même.
C'est ça.
Faut pas hésiter à le dire. Merci, Emma, on vous embrasse.
Merci.
Au revoir.
Vos témoignages, vos expériences. On se dit tout sur France Bleu.
Vous avez voulu faire un bébé, ce bébé n'a jamais voulu venir tout seul. Rapport sexuel à date précise, traitements hormonaux, don de sperme, FIV. Certains ont peut-être entendu parler aussi de don d'ovocytes, mais en France, l'attente est trop longue, faute de donneuses. Et pourquoi pas à l'étranger. Et le couple dans tout ça, comment vous avez passé toutes ces épreuves? Comment on fait pour rester léger et ne pas penser qu'à ça? On en parle avec vous sur France Bleu et avec notre grand témoin, Déborah Schumann-Antonio, auteur du livre « Infertilité, mon guide vers l'espoir » aux éditions Jouvence. Et avec Céline maintenant, dans la Manche. Bonjour Céline.
Bonjour.
Vous avez fait deux FIV.
Deux FIV, oui.
Et
pour
au bout.
Deux petites filles.
Voilà, deux FIV et deux filles. C'est joli
oui,
en plus.
Voilà. Oui.
Ça a duré combien de temps ce parcours, Céline? Parce que même si au bout il y a ces deux petites filles, ça n'empêche que c'est parfois long, c'est compliqué.
Oui. Alors nous, ça a duré 5 ans pour la première et 2 ans pour la deuxième.
Waouh, oui.
Et nous, c'est un bébé multiple, comme on dit. On l'a fait à plusieurs. Parce qu'il y avait toute la famille, tous les amis, on était tous ensemble.
Ah, c'est chouette ça.
Ouais.
C'est-à-dire que dès le départ, vous l'avez dit, quand vous avez senti que naturellement ça ne marchait pas, il va falloir peut-être passer l'étape supérieure, vous avez directement sollicité vos amis.
Ouais. On en a parlé dès le départ. Ça, c'était plus facile pour nous à gérer. Puis comme on sortait beaucoup, on faisait beaucoup de choses, donc tout le monde nous suivait.
J'aime bien ça, ce bébé multiple, j'aime beaucoup la formule.
J'adore l'expression, je trouve ça très positif.
Qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement? Qu'est-ce qu'ils vous disaient par exemple, votre famille, vos amis? Ce qui n'aurait peut-être pas été le cas si vous leur aviez dit après ou plus tard ou pas du tout?
Je pense que comme on avait tous le même âge, on s'est tous rencontrés en même temps, je pense que ça aurait été vexant que je ne partage pas ça avec eux. Donc... c'était plus facile à gérer. Je me rappelle, on partait en soirée, mon mari a appris à faire les piqûres. Donc, on s'éloignait, on faisait la piqûre et on revenait et personne ne se rendait compte de rien, même s'il savait ce qu'on avait fait.
Vous aimiez qu'on vous en parle, qu'on vous sollicite pour en parler? Parce que parfois, quand on n'est pas concerné, on se dit, ah non, mais je sais qu'elle n'arrive pas à avoir un bébé, j'ai pas forcément envie de lui en parler. Est-ce que ça, c'est un conseil que vous pouvez donner peut-être à l'entourage, à d'autres personnes qui nous écoutent?
Ouais, faut dire franchement, comme à la fameuse question, bon, quand est-ce que tu fais un bébé? Une fois, deux fois, trois fois? Bon, la quatrième fois, je peux pas, j'ai des gros problèmes, il se passe ça. Donc, les gens, au début, ils s'arrêtent. Et puis après, ils posent des questions et c'est fini.
Et c'est important, ces questions-là, de pouvoir y répondre, de pouvoir échanger, comme on échangerait sur la maternité, on échange sur ce moment d'avant.
Oui, moi je trouve ça essentiel. Alors, c'est pas toujours évident à dire. Je pense que y a pas de règle. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de le dire à tout le monde de son entourage ou de ne le dire à personne. Je crois qu'il y a vraiment des gens où spontanément on sent qu'on peut aller leur en parler. Mais aussi, je crois sincèrement comme conseil qu'il faut donner les règles du jeu à notre entourage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on leur a dit exactement ce que vient de dire Céline, évidemment les gens sont un peu interloqués. Qu'est-ce que je vais faire de cette information qu'on vient de me donner? je ne sais pas comment réagir. C'est quoi, comment je dois me positionner par rapport à ça? Donc, nous, je trouve qu'en tant que patient, on doit leur dire voilà ce qui me ferait du bien, ou voilà ce que j'attends, pour que les autres puissent s'adapter à notre besoin qui n'est pas le même d'un individu à un autre.
Il y en a qui ont besoin d'en parler, d'autres qui ont besoin de faire
d'autres
comme si.
D'autres qui disent je te l'ai dit et maintenant passons à autre chose. Ouais. Voilà. Mais donnons les règles du jeu. Comme ça, l'entourage, il sait exactement comment ils peuvent nous aider. Et c'est là où, dans le témoignage de Céline, c'est intéressant. C'est une fois qu'on leur a dit, alors ça devient une force, une vraie force d'être accompagnée, d'être soutenue.
Et vos filles, elles ont quel âge, Céline, aujourd'hui ?
Elles ont 11 ans et demi et 9 ans.
Est-ce que vous leur en avez parlé ? Parce que j'ai l'impression que le dialogue est très important. Est-ce que vous leur avez expliqué aussi que ça n'a pas été simple, ou est-ce que c'est un peu tôt ?
Non, non, elles savent depuis longtemps, parce que le gynéco m'avait dit qu'il fallait mieux que ce soit les parents qui en parlent avec nos mots que des gens extérieurs qui ne savent pas et qui disent des bêtises. Donc, ouais, quand elles ont eu 5-6 ans, on leur a parlé avec des reportages et tout. Non, non, elles savent très bien.
Ouais, c'est bien aussi, là on voit bien que le dialogue et la communication dans votre famille
extrêmement important. Très important. Ce que vous dites là est important. La communication dans le couple est essentielle, pendant les parcours, pendant la grossesse, mais après avec les enfants, ça reste important. Alors, dans le cas d'une FIV, si on a envie de le raconter, ça fait partie de l'histoire des enfants qu'on a eus. Et dans les cas de dons, j'allais dire, alors là, encore plus, parce que c'est leur histoire.
Merci beaucoup Céline,
merci
beaucoup
Céline
pour votre joli témoignage, on vous embrasse.
De rien.
La dernière partie d'On se dit tout arrive dans un instant, on parle de l'infertilité qui n'est pas une fatalité, on l'a bien vu avec certains de vos témoignages et ça continue.
Racontez-nous votre histoire, on se dit tout sur France Bleu.
Et aujourd'hui on vous écoute, vous qui vous êtes battu pour avoir un bébé ou qui vous battez encore avec les traitements hormonaux, les FIV qui n'aboutissent pas toujours, avec parfois aussi les questions de l'entourage, questions qu'on se pose soi-même. Notre grand témoin c'est Déborah Schumann-Antonio, auteur de Infertilité, mon guide vers l'espoir chez Jouvence Éditions. Et c'est un homme qui va conclure cette émission, Alexandre est avec nous en Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
C'est bien d'avoir un homme, de prendre le téléphone et d'en parler parce que vous l'avez accompagné, votre femme, pendant les examens.
Tout à fait. Alors, ça a commencé, on a découvert que ma femme a une grosse envie d'avoir un enfant, ça s'explique pas ça. Et ça a commencé à naître un petit peu longtemps, donc on s'est questionné parce qu'on avait de nombreux amis chez qui ça venait, ils arrêtaient la pilule et puis ça y est, c'était parti quoi. Mais nous, rien ne se passait et puis donc ma femme a été consultée sa gynécologue qui lui a dit tout simplement de ne plus y penser parce que c'était qu'on y pensait trop que ça ne venait pas.
Pas si simple que ça, ça.
Pardon ?
C'est pas si simple que ça parce qu'évidemment on ne pense qu'à ça.
C'est exactement. Donc on a décidé de changer de gynéco. Et ma femme a été voir le nouveau gynécologue et lui a découvert en fait une endométriose.
Ah oui, d'accord.
Donc du coup, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Donc elle s'est fait prendre en charge, elle s'est fait opérer. Mais après, ça ne venait toujours pas. Donc on a commencé les tests on a été en PMA du coup. On a commencé les tests chacun de notre côté. Et en fait, il s'est passé que à juste un mois avant d'entamer les procédures médicamenteuses, les piqûres, etc., elle est tombée enceinte. Voilà. Donc ça peut aussi arriver.
est-ce que vous arrivez à l'expliquer ou ça s'explique pas finalement, et tant mieux si ça s'explique pas?
Je pense que non, on n'arrive pas du tout à l'expliquer. Par contre, ça a été tellement un petit peu à un moment de notre vie le parcours du combattant que ça nous a, je pense, beaucoup renforcé. On est passé par toutes ces épreuves-là. Et puis maintenant, ça a changé notre regard sur la vie, tout simplement, parce que notre fille maintenant a 5 ans et en pleine forme et on est très contents et on a changé notre vie par rapport à l'alimentation plus saine, par rapport à l'éducation aussi, on s'y intéresse, par rapport à plein de choses qui touchent à l'enfant en fait et la vie en général, et on se doit de réagir sur la protection de l'environnement, de l'avenir de nos enfants en fait, et on y travaille pour notre fille mais avant tout pour tous les enfants quoi.
Non,
on
mais
s'est beaucoup engagé là-dessus.
C'est vrai que je posais la question, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi d'un coup ça marche naturellement alors qu'on est parti vers une démarche médicamenteuse, traitement, et on n'a encore pas la réponse à tout
même
ça en
fait. Même les professionnels du coup n'arrivent pas à l'expliquer.
Ouais. Non, il n'y a pas d'explication.
Comme pour
explication.
Pour vous, Déborah.
Moi, c'est ce qui s'est produit pour moi aussi. C'est pas toujours explicable. J'allais dire tant mieux, parce que ça veut dire que c'est un côté aussi magique. Après, moi, je voudrais quand même dire qu'on vous a expliqué qu'il y avait, enfin, il fallait plus y penser. Il y avait quand même une endométriose. Bon, donc voilà, endométriose. Je voudrais quand même dire qu'aujourd'hui, on a vraiment un vrai souci, puisque l'endométriose, on met beaucoup d'années en fait à réussir à le trouver chez certaines femmes, et malheureusement, elles perdent beaucoup de temps parfois dans certains parcours.
Merci beaucoup Alexandre,
merci Alexandre.
De nous avoir appelé et surtout d'avoir été le premier homme de l'émission.
Oui.
Un petit coucou également à Gaëlle qui nous a appelé, elle a eu 4 filles, une qui a marché, un deuxième garçon qui est arrivé aussi naturellement. Donc voilà, il y a aussi
des belles histoires.
Mais parfois ça ne peut absolument pas marcher et il faut passer à autre chose, il y a d'autres choses à vivre dans la vie et c'est pas parce qu'on n'arrive pas à avoir un bébé qu'on réussit pas à côté. Merci beaucoup d'avoir été notre grand témoin, Déborah Schumann-Antonio, et bravo pour ce livre qui peut faire tellement de bien à pas mal de couples. Infertilité, mon guide vers l'espoir.